Bonjour à tous. Donc on va aller vite sur les présentations. Je m'appelle Julien Coriolan, je suis évangéliste technique chez Microsoft et je suis également membre d'une équipe projet, un projet qui s'appelle VorlonJS, qui est un outil qui a été créé par des développeurs pour des développeurs, qui a pour but en fait de faciliter le debug des applications mobiles, principalement sur téléphone. Donc juste pour que vous compreniez bien comment ça marche, je vais vous demander, pour ceux qui ont encore un peu de volonté dans la salle, de vous connecter sur cette URL. C'est un simple site web, ak.ms/demo-vorlon-js. ak.ms/demo-vorlon-js. Je vais m'y connecter aussi ici. Alors, le site en soi, il n'a pas un gros intérêt, ak.ms/demo-vorlon-js. Par contre, ce que vous pouvez voir ici, c'est que je vois des clients qui sont en train de se connecter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Vorlon.js, c'est en gros les outils F12 de développement, mais à distance. Donc là, je vais pouvoir prendre, identifier un client. Donc là, normalement, pour ceux qui sont connectés, il y a un numéro qui doit s'afficher sur votre écran, qui est le 3, Android. Okay. Donc là, je vais sélectionner votre device. Et je vais pouvoir venir accéder à un certain nombre d'informations, le DOM, etc., si ça veut bien se connecter. Et je vais pouvoir, par exemple, exécuter du JavaScript. Hop. Alors, est-ce que ça passe? Le 3 n'a pas l'air de passer. Alors, on va essayer iOS, le 4, c'était qui? iOS 4, hop. Donc, voilà. Donc là, j'ai accès au DOM, je peux venir faire des manipulations sur le DOM. Enfin bref, je peux venir vraiment débugger, mais à distance. Voilà, c'était juste pour comprendre l'intérêt du truc. Et en fait, moi, je suis arrivé sur ce projet il y a 8-9 mois à peu près. C'est un projet qui est fait par des évangélistes de Microsoft. Et je les ai aidés et accompagnés sur l'outillage et l'automatisation d'un certain nombre de choses, notamment l'exécution de build en continu, l'exécution de tests unitaires, le déploiement en continu, la publication automatique d'images Docker dans le hub Docker. Bref, on l'a dit depuis le début de cette matinée, hein, une des clés et un des enjeux vraiment de l'adoption d'une démarche DevOps, c'est livrer de plus en plus rapidement des features, faire du déploiement continu. Et au-delà de la culture, une fois qu'on l'a adoptée, culture qui est très importante, on va devoir s'outiller. Il y a un point qui est important ici, c'est que ce projet, c'est un projet qui est open source et un projet qui est communautaire. Ça veut dire qu'on a déjà une première chose à prendre en compte, c'est qu'il y a des gens externes à l'organisation, externes à l'équipe, qui peuvent venir contribuer, qui vont apporter leur pierre à l'édifice, qui vont écrire des plugins, qui vont écrire du code, et qu'on doit être capable de valider la qualité de ce code avant de publier ça. Donc on a hébergé ce code dans GitHub, et il est ouvert évidemment à tout le monde. Et du coup, pour pouvoir faire tout ça, on a choisi Visual Studio Team Service, qui est notre outil de gestion de projet d'équipe, d'usine logicielle, on l'appellera un petit peu comme on veut, dans le cloud, qui est le Team Foundation Server pour le cloud, hébergé dans Azure, dans lequel on va pouvoir créer justement des builds, exécuter des tests unitaires, faire des nightly builds, faire de l'intégration continue ou pas, faire du déploiement, faire un certain nombre de choses à ce niveau-là. Et en fait, ça rejoint la question que j'ai eu tout à l'heure sur l'avenir en fait, du contrôleur de code source TFS, ou plutôt de l'intégration de GitHub dans les outils Microsoft. L'idée, ce n'est pas d'arrêter l'un ou l'autre, c'est juste de permettre à tout le monde d'utiliser les outils qu'il a l'habitude d'utiliser et quand même automatiser un certain nombre de choses en utilisant Visual Studio Team Service. Donc du coup, cet outil, on va pouvoir très facilement le connecter à GitHub. Donc là, je suis sur une définition de build, donc qui est notre build d'intégration continue. Je vais vous montrer d'abord la partie repository. Donc là, j'ai une connexion qui est faite directement sur le GitHub de Vorlon.js. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commit du code ou un développeur externe qui fait une pull request qu'on va merger, on va pouvoir exécuter une build d'intégration continue pour valider que tout fonctionne bien. Autre petite spécificité qu'on va avoir ici, c'est que ce projet, c'est pas un projet .NET. On n'est pas sur des technos Microsoft. C'est un projet qui est développé en Node.js avec un framework qui s'appelle JAD et Express pour le front, et qui va nous permettre justement de fournir ce dashboard que vous avez vu avec du socket I/O derrière et plein de technologies cool, donc beaucoup de JavaScript. Et c'est pas pour ça qu'on peut pas effectuer un certain nombre de tâches automatisées dessus. Donc la première chose qu'on fait en fait quand on a une build qui se déclenche, c'est un npm install, notre package manager pour aller récupérer tous les packages qui vont bien. Ensuite, on va exécuter des tests unitaires avec Mocha.js. Ensuite, on va créer un package pour le déploiement et on va publier les résultats des tests et les packages à déployer. Donc ça, c'est super important puisqu'en fait, on est sur des technos tierces non Microsoft. On a un certain nombre de tâches qui sont supportées directement par Visual Studio Team Service qui est ouvert à plein de technos. Donc là, je peux vous montrer un petit peu ce qu'on a. On va avoir des tâches pour faire de la build Android, pour faire du Maven, pour faire du Docker, Gradle, etc. Évidemment, MS Build, des tâches pour faire de l'analyse statique de code avec du SonarQube. Bref, un certain nombre d'outils qui sont présents nativement dans l'outil et qui vont nous permettre justement de gérer des workflows de build plus ou moins complexes et plus ou moins orientés ou pas sur des technologies Microsoft. Donc là, l'exemple que je trouve assez intéressant, c'est la partie Mocha.js, donc un framework de test parmi tant d'autres en JavaScript, qui va fournir un fichier de test en JUnit derrière, donc pas du tout du monde Microsoft. Et on va quand même pouvoir intégrer ces résultats de test directement grâce à VSTS. Et du coup, dans le résultat de nos builds, on va retrouver un dashboard avec les résultats des tests, avec vraiment toutes les informations qu'on veut voir visualiser, malgré le fait qu'on ne soit pas forcément sur une techno Microsoft au départ. Donc assez flexible à ce niveau-là. Ensuite, il y a un autre point qui est important, c'est de se dire, OK, si jamais je suis sur des technos qui ne sont pas du tout supportés par Visual Studio Team Service, comment je fais? Est-ce que je peux utiliser l'outil ou pas? La réponse est oui, puisqu'en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est provisionner des agents qui vont nous permettre justement de configurer ce qu'on veut pour exécuter nos builds. Ces agents, ça peut être du Windows, ça peut être du Linux, ça peut être des agents qui tournent sous macOS si on veut faire de la compilation d'applications pour iPhone, par exemple Xcode. Et donc là, moi, j'ai un agent qui est provisionné sous Linux, que je n'ai pas lancé ici, mais que je vais pouvoir lancer. Donc là, je vais lancer mon agent. Donc c'est un simple exécutable. Il se connecte à mon Team Foundation Server en ligne. Voilà, je vois que le Bidubuntu ici, il est arrivé. Je vais décocher celui-ci. Je vais passer sur mon agent Linux. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que l'autre jour, on a choisi de publier Vorlon.js sur le hub Docker, donc, qui est un hub où on va retrouver toutes les images utilisables pour Docker, où tout le monde publie là-dessus. Et en fait, on a utilisé ici Team Service pour faire la génération automatique de cette image. Et donc là, en fait, à la guerre comme à la guerre, on n'avait rien de dispo dans VSTS pour le faire. Donc on a écrit un script bash qui est relativement simple, hein, je peux vous le montrer ici, qui va tout simplement, si je le retrouve, faire des commandes Docker build, Docker login, etc. pour aller faire la compilation de l'image, la pousser dans le hub Docker, etc. Et ce script bash, on vient en automatiser l'exécution à chaque fois qu'on va faire un commit sur notre branche master. Donc en gros, à chaque fois qu'on va publier une nouvelle version de Vorlon.js sur master, ça va automatiquement aller exécuter ce script, compiler l'image, la publier dans le hub Docker. Donc c'est vraiment un truc qui est hyper important, d'essayer d'automatiser au maximum, quels que soient les technos qu'on utilise. Et au final, ce script-là, on pourrait le faire à la main à chaque fois. Ou alors, on pourrait l'automatiser comme ça a été fait là. Autre exemple sur lequel on est en train de travailler, c'est l'automatisation de la publication d'un package au niveau de NPM. Pourquoi? Parce qu'on a été confronté en fait, dans l'équipe à une erreur qui fait qu'on a publié un mauvais package une fois et NPM n'autorise pas à supprimer un package. Donc du coup, on a un package qui est là, qui ne marche pas, qui ne sert à rien. Parce qu'il y a eu un souci au niveau de la publication, on s'est dit on va automatiser ça pour faire en sorte que ça fonctionne et on va là encore utiliser Visual Studio Team Service. Autre point qui peut être intéressant pour vous dans cet outil, c'est la partie release. Donc je vais vous le montrer rapidement ici, parce que je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Donc la partie release, c'est la fonctionnalité de release management qui existait avant dans un client lourd qu'on pouvait installer sur Windows, qui a été complètement converti en version web. Et donc là, j'ai une release qui est définie, qui est relativement simple, puisqu'elle comporte deux environnements, un environnement pour le développement et un environnement de pré-production, je crois, ou de test. Et l'idée, c'est de retrouver dans ces différents environnements également un ensemble de tâches, que ce soit des déploiements de ressources groupes, dont nous parlait Pascal tout à l'heure, que ce soit des exécutions de script PowerShell, de script Bash, de connexion à des clusters Docker pour aller déployer des conteneurs, de connexion à des environnements chefs pour déployer des applicatifs et leur configuration. Bref, pour faire un petit peu tout ce qu'on a envie de faire au niveau déploiement. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des scripts d'infrastructure, les fameux scripts JSON dont parlait Pascal tout à l'heure, qui, eux, sont versionnés avec le code source de l'application, dans l'idée d'avoir vraiment l'outil de code source comme un repository central entre les équipes de dev et les équipes ops, pour faire en sorte qu'à chaque version, on puisse avoir l'infrastructure qui est associée. Donc là, j'ai un template de déploiement JSON relativement simple qui va me permettre d'aller créer une web app et un hosting plan dans Azure. Et quand je vais faire évoluer ce script JSON, en fonction des nouveaux services que je vais rajouter dans mon application, je vais à chaque fois écraser cette version, puis cette version, puis cette version. Et puis si dans deux semaines, trois semaines, il y a quelqu'un qui nous rapporte un bug sur la version 0.2.2 qu'on a publiée hier, on pourra revenir sur aussi bien le code applicatif que le code infrastructure, redéployer le tout dans Azure, et puis faire du debug pour voir ce qui se passe. Et donc du coup, ces scripts JSON, je les utilise ici, au niveau de mon release management, pour aller créer toutes les ressources qui vont bien dans Azure, et puis ensuite déployer mon package applicatif qui a été créé lors de la build. Puisqu'ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu lier mon intégration continue, donc qui produit à chaque fois le package applicatif, plus les fameux scripts JSON, PowerShell, etc., dont je vais avoir besoin pour déployer, et que je vais réutiliser pour chaque environnement. Autre chose intéressante qu'on a utilisée là-dedans, c'est la notion de disposable infrastructure. Aujourd'hui, les clouds, ça nous permet de monter des ressources et de les démonter un petit peu à la demande, tout simplement pour arrêter de les payer quand on n'en a plus besoin. Et là, ce qu'on va faire, c'est quand on va passer de l'environnement de dev à l'environnement de test, la première tâche qu'on va faire, c'est déprovisionner l'environnement d'avant, puisqu'on n'en a plus besoin. Ça ne sert à rien de le laisser et de continuer à le payer. Donc on va optimiser comme ça nos coûts au niveau de la plateforme Azure. Et dernier point, c'est la notion d'approbation. Quand on va passer d'un environnement à l'autre, on ne va pas le faire, on pourrait, mais on ne va pas le faire ici dans ce cas-là, de manière automatisée, c'est qu'on va avoir besoin de quelqu'un qui vient dire « Ok, je souhaite passer sur la version, l'environnement suivant, pour faire en sorte que ça suive son cycle, pour aller à une équipe de test, puis sur un environnement où on va effectuer des tests de charge, puis sur la pré-prod, sur laquelle on va faire peut-être du test en production en utilisant des slots Azure, et puis enfin jusqu'à la production pour tous les utilisateurs. » Et donc là, si je repasse sur mon agent Windows pour effectuer la release, si je vais voir celle-ci, en fait, je peux voir qu'elle est bloquée en développement. Donc, c'est le site web que je vous ai montré juste avant, sur lequel j'ai fait la démo. Je vais pouvoir dire « Ok, je suis content, ça fonctionne bien. » Et donc, à ce moment-là, ma release va continuer son avancement et l'applicatif va être déployé sur mon environnement de test, etc. etc. Vous aurez compris la suite. Et donc du coup, tout ça fonctionne avec des agents, et je crois que Joao, tu voulais nous montrer un petit peu comment on peut automatiser aussi le provisionnement de ces agents, puisque c'est un des autres intérêts d'avoir des outils complètement scriptables, complètement automatisables, c'est la capacité qu'on va avoir à dire l'agent Linux ou Windows que je vais utiliser pour faire ma build, ça ne sert à rien qu'il tourne 24 heures sur 24, je vais utiliser une build pour déployer l'agent qui va faire la build. Donc en gros, le concept, c'est que dans Visual Studio Team Services, on va avoir un agent de build hosté qui est fourni par Microsoft et qui est disponible H24, 7 jours sur 7. Celui-là, vous allez en fait avoir une facturation qui se fera à la minute d'utilisation. Et cet agent de build hosté, il va permettre de déclencher une build qui va aller potentiellement déployer des agents de build plus spécialisés sur lesquels il n'y aurait pas toutes les fonctionnalités dispo, enfin avec plus de fonctionnalités que celui prévu initialement. Et donc pour ça, je crois que tu as utilisé Chef.
Bonjour tout le monde. Bon, ça va être extrêmement rapide parce que c'est un sujet très très vaste, mais je voulais vous parler un petit peu d'infrastructure as code. On a déjà parlé aujourd'hui, mais cette capacité de pouvoir provisionner une infrastructure en partant de scripts et des fichiers de configuration, c'est un outil majeur au sein de DevOps, justement parce que ça nous permet de construire dynamiquement l'infrastructure qu'on en a besoin, déployer nos applicatifs et une fois qu'on a réalisé nos tests, la détruire. Des scénarios comme par exemple des montées de versions d'OS, tester du dev and test avec des disposable environnement, c'est des scénarios qui sont très intéressants au sein de DevOps. Donc, dans le cadre de VSTS, il y a un connecteur qui permet de, d'utiliser Chef. Alors, Chef, c'est quoi? C'est un outil d'infrastructure as code, configuration management, qui est composé essentiellement de trois éléments. Donc, on a le Chef serveur, sur lequel il y a deux modes. Il y a le mode hosted, le mode installé on-premises ou dans le cloud, mais c'est vous qui gérez l'infrastructure. Il y a le chef client, qu'en fait, ça correspond à vos nœuds, donc à vos machines que vous voulez gérer. Et à ces différentes machines, vous pouvez appliquer en fait, un ensemble de recettes, de cookbook, qui vont mettre à niveau, en fonction de vos souhaits, des rôles des machines, les éléments nécessaires. En plus de ces éléments-là, Microsoft a travaillé d'une façon très étroite avec Chef pour amener une intégration non seulement avec le cloud Azure, mais aussi avec les outils de gestion et de pilotage de Chef. Un exemple de cette intégration, c'est la facilité qu'on peut aujourd'hui provisionner une infrastructure Chef sur Azure et aussi, par exemple, l'intégrer avec VSTS comme Julien en a parlé tout à l'heure. Juste pour vous donner un exemple de cette intégration, j'ai plus d'icônes. Bon, on va essayer de faire ça. Au pif, c'est le problème des drivers. Hop. Donc là-dessus, j'ai un petit script que, en gros, je vais utiliser un outil, une extension sur Chef. Donc Chef, l'outil principal s'appelle Knife. En fait, ça veut dire couteau. Donc ils sont très dans le thème de la cuisine et c'est assez marrant. Avec cette extension, je vais pouvoir créer une machine virtuelle sur Azure avec un nom que je vais lui indiquer ci-dessus. Je vais donner aussi également sa taille, son storage account et aussi son image. Là, par exemple, je vais lui donner une machine de développement avec Visual Studio déjà installée. Une fois qu'on a défini cet ensemble de configurations de provisioning de la machine, je veux lui donner, très important, la recette, ainsi que l'ensemble des assets que je vais pouvoir affecter à cette machine-là. Donc là, je vais le lancer, ça prend un peu de temps, mais du coup, je vais vous montrer directement un autre exemple qui existe déjà. Donc si on regarde ici par exemple la machine 10 que je créais tout à l'heure, en gros c'est une plateforme Windows avec son nom et ici en dessous je vais avoir en fait l'ensemble de la run list des éléments qui vont être associés. Dans Chef nous avons cette notion de policy. Dans Policy, on a l'ensemble des ressources que vous pouvez regarder ici. Et donc ça, c'est l'ensemble des cookbooks. Et donc chaque cookbook a un ensemble de recettes qu'on peut appliquer après à un serveur. Par exemple, de serveur de build, je vais regarder Windows Build Server. Et là-dessus, j'ai l'ensemble de recettes qui sont appliquées. Notamment la recette par défaut qui va installer Python, Node.js, JDK, Gradle, TypeScript, etc. Une fois qu'elle a terminé ça, elle va aussi rajouter l'installation de l'agent de build et le rattachement directement à votre compte VSTS. Donc c'est assez intéressant parce que vous pouvez construire dynamiquement ces serveurs-là et une fois que l'installation est terminée, les serveurs de build ils sont rattachés dynamiquement ici et donc vous pouvez utiliser dans vos builds. Donc voilà, bon, c'est une démo un peu rapide. Mais je pense qu'on fera une autre journée et qu'on en aurait un peu plus de temps, 30 minutes directement sur Chef. Merci beaucoup.